fleuve, on est un peu marabout, les circonstances sont pas selon nos désirs, et puis là, on finalement, on sait pas vraiment à qui on s'adresse. On le sait qu'on s'adresse à Dieu, on le sait qu'on vient devant lui pour prier, mais on oublie qui est Dieu, on oublie à qui on s'adresse, et puis on fait des gaffes semblables un peu à cet homme qui essayait de rejoindre son magasinier. Ce matin, le texte qu'on va voir, je vous invite à tourner dans Jacques avec moi, qui va parler surtout en ce qui concerne la prière. J'aimerais vous partir peut-être bientôt, peut-être vous arrivez, vous aurez du temps encore de libre devant vous cet été. Vous cherchez un livre de lecture, j'aimerais vous en recommander un si vous en cherchez un. La prière fait-elle une différence? De Philippe Yancey. Si vous cherchez un livre intéressant qui va vous encourager à la prière, qui va vous encourager d'une façon, d'un point de vue de l'homme face à Dieu, si je pourrais dire, c'est un bon livre. Il faut juste vous en faire une citation. Différentes questions que cet auteur se pose en début de son livre. Dieu écoute-t-il? Pourquoi s'intéresserait-il à moi? Si Dieu sait toute chose, à quoi ça sert de prier? Pourquoi les réponses à la prière semblent-elles si incohérentes, voire des fois même capricieuses? Est-ce que quelqu'un entouré de beaucoup d'amis qui prient pour lui a-t-il de meilleures chances d'être guéri que celui atteint d'un cancer, mais pour qui peu de gens intercèdent? Pourquoi Dieu semble-t-il parfois si proche et parfois si éloigné? La prière entraîne-t-elle des changements chez Dieu ou chez moi? On verra pas toutes ces réponses-là, ces questions-là, ce matin. Mais quand on pense à la prière, peut-être intérieurement, on a ces questions-là. Ces questions-là qu'on n'ose pas nécessairement toujours trop poser ouvertement, mais que ces questions-là nous emmènent, par exemple, à, parce que des fois, on n'a pas de réponse, à garder silence face à Dieu. Puis à pas toujours se présenter devant Dieu pour lui présenter nos requêtes, nos supplications, nos partages. Des fois, on se dit, les silences de Dieu sont inquiétants. On a peur des fois que Dieu soit silencieux. Tout à coup, que je lui donne ma prière, puis qu'il ne réponde pas. Je crois que Dieu s'inquiète beaucoup plus de nos silences que nous, on a à s'inquiéter des silences de Dieu. Trop souvent, nos réponses qu'on garde en tête, qu'on n'a pas nos questions, qu'on n'a pas nos réponses, nous gardent silencieux. Et ça, c'est pas à notre avantage. Sois pas silencieux. Dieu veut t'exaucer. Prie. Dieu, il veut que tu lui parles. Dieu, il veut que tu pries. Dieu veut t'exaucer. C'est ce qu'on va voir ce matin à travers le texte de Jacques et aussi à travers la vie d'Élie. Parce que Jacques va citer l'exemple d'Élie. Fait qu'on va tourner à travers, on va voir quelques versets dans Jacques, puis on va aller voir aussi dans un roi. Juste avant, j'aimerais qu'on prie, que Dieu nous guide dans sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un grand Dieu et tu mérites toute notre adoration. Tu mérites, Seigneur, qu'on prenne le temps de s'arrêter, non seulement ce matin, mais à plusieurs moments dans nos vies, dans nos semaines, pour qu'on puisse te contempler, t'adorer, te présenter nos requêtes, nos supplications, te présenter nos partages. Puis Seigneur, on veut t'adorer parce qu'à chaque fois, tu es fidèle pour nous écouter, pour tendre l'oreille, pour nous montrer ton intérêt. Toi, tu demeures toujours fidèle, Dieu. Ce matin, on veut ouvrir nos oreilles, nous aussi, pour que toi, tu nous parles, parce que tu nous encourages à travers ta parole à ce qu'on puisse partager, Seigneur, ce que l'on a sur notre cœur à toi. Et viens nous encourager, viens nous motiver à cette prière-là, parce que tu veux nous exaucer, tu veux qu'on te prie. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Est-ce que ça fonctionne, Richard? Merci beaucoup. Vous avez tourné dans Jacques 5, on va lire les versets 16 à 18. Ce matin, je pense que ça devrait être assez simple à retenir. Il n'y aura pas personne qui va tomber en bas de sa chaise avec un nouvel enseignement, mais ça va être l'enseignement des Écritures. On va voir ce matin deux bonnes raisons pourquoi on devrait prier. Regardez avec moi Jacques 5, les versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit de son fruit. Jacques, il continue. On arrive à la fin de l'épître de Jacques, comme on avait parlé la dernière fois, et il arrive avec différentes recommandations, particulièrement différentes recommandations, même en ce qui concerne la prière. Précédemment, on avait vu, par exemple, de prier que les anciens peuvent venir visiter les malades et prier pour eux. Et puis, ensuite de ça, on arrive au verset qu'on vient de lire, au verset 16, de confesser les péchés les uns aux autres, puis de prier les uns pour les autres, afin qu'on soit guéris. On va revenir sur cet aspect-là un peu plus tard, mais Jacques, il va citer un exemple, comme tout au long de son épître, Jacques, il s'adresse à des auditeurs particulièrement juifs. Et il va relever différents exemples, comme par exemple, il avait déjà cité Job, là il va citer Élie, pour parler que justement que la prière a une grande efficacité. La première bonne raison pour laquelle je devrais prier, c'est que la prière, c'est pour les gens ordinaires. La prière, c'est pour les gens ordinaires. Regardez le verset 17, qu'est-ce que Jacques dit? Élie était un homme de la même nature que nous. On pourrait mettre ça de même encore plus contemporain, c'est même la même nature que David, Marquis, qui conduisait tantôt. C'est même la même nature que vous qui êtes assis ici. Que des fois, on peut se lever le matin pour prendre son partage qu'il disait, et puis pas nécessairement être toujours de bonne humeur. Tournez avec moi dans 1 Roi 17. Gardez votre doigt dans Jacques, s'il vous plaît. Je ne vais pas te mettre sur le spot, David, c'est juste que tu l'avais déjà partagé tantôt. 1 Roi 17, et puis Asaph, le texte qu'on avait tantôt dans le partage, bien, la même chose. Asaph était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Quand que Jacques va citer l'exemple d'Élie aux Juifs, et puis pour nous aussi, ça a un sens assez grand, parce que Élie, quand on pense à lui, il a fait des choses quand même assez particulières. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si on lit l'histoire d'Élie, on voit qu'il s'est produit plusieurs miracles dans la période d'Élie. Et comme Jacques vient de citer. Puis même, est-ce que vous vous souvenez la fin d'Élie? Quelle était sa fin? Hein? Il a été enlevé, un chariot de feu qui est descendu, qui est venu le chercher, puis qui est remonté au ciel. Assez particulier quand même, hein? Il n'y en a pas beaucoup qu'on a pu voir ça. Alors, du moins, on a l'exemple d'Élie. Alors, Élie, bien qu'il ait été un homme de Dieu, un prophète, c'était un homme ordinaire. C'était un homme de la même nature que nous. Regardez le verset 17. Excusez, 1 Roi 17, le verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Élie, il vient d'où? Qu'est-ce qu'on connaît d'Élie? Est-ce que c'est un homme d'une descendance tout à fait incroyable? Un homme qui a eu des pères connus dans l'époque? Tout ce qu'on connaît de lui, c'est qu'il vient de Galaad, probablement de la ville de Tishbi, parce qu'il était un Tishbite. Et on connaît pas grand-chose de lui, mais Dieu l'a utilisé. Puis Dieu l'a utilisé pour faire quelque chose d'extraordinaire, lui qui était un homme ordinaire. Élie, il pouvait vivre des difficultés, des luttes, des passions, des différentes tentations. Il était un homme de la même nature que nous. Mais Élie, même, regardez, tournez avec moi, vous êtes déjà dans un roi, regardez au chapitre 19. On va passer un petit peu par-dessus l'histoire. On va revenir à un moment donné au chapitre 18. Ce qu'on voit, c'est Élie et les prophètes de Baal. À un moment donné, le peuple était dans une période d'idolâtrie. Et là, le roi Achab avait des prophètes de Baal, 400 prophètes qui, eux, invoquaient leur Dieu. Et puis, il n'y a rien qui se passait. Et puis là, à un moment donné, il avait fait un défi. Vous vous souvenez, le défi, là, les prophètes de Baal devaient préparer une offrande. Et puis, leur Dieu que les prophètes allaient invoquer allait faire descendre le feu du ciel. Puis, le feu n'est jamais descendu. Élie, il a invoqué l'Éternel. Le feu est descendu, puis il a consumé ce qu'Élie avait préparé. Mais tout de suite après ce grand exploit-là, la femme de Achab, Jézabel, elle n'est pas contente. Parce qu'après l'exploit des 400 prophètes de Baal qui n'ont pas réussi leur défi avec Élie, ben Élie avait exterminé les 400 prophètes de Baal. Et puis, Jézabel n'était pas nécessairement très contente de ça. Et là, regardez verset 1 du chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Il est parti les pattes aux fesses. Pour lui, verset 4, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie était un homme qui pouvait être en proie au découragement. Un homme qui pouvait avoir faim. Un homme qui pouvait avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans la tête d'Élie? Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Je ne vais pas nécessairement étirer tout cet enseignement-là sur cet épisode-là de la vie d'Élie avec Jézabel. Mais ce que je veux faire relever, c'est que Élie, un héros de la foi, un homme important dans les Écritures, est de la même nature que vous et moi. Vit les mêmes difficultés que vous et moi. Peut être en proie au même découragement que vous et moi. Mais Élie avait mis quelque chose en pratique, par exemple, dans sa vie. C'était la prière. Il priait. On va revenir dans le Nouveau Testament. En revenant vers Jacques, arrêtez dans Luc, s'il vous plaît. 18. Dans la prière avec Dieu, on n'a pas besoin d'artifice. On n'a pas besoin d'être quelqu'un, si je peux employer cette expression-là. Élie était une personne anonyme jusqu'au moment où Dieu, à travers sa faiblesse d'Élie, a manifesté sa puissance. La prière est pour les gens ordinaires. Élie était un homme ordinaire. Et regardez, on va voir, même Jésus a raconté quelque chose à ce sujet-là. Luc 18, à partir du verset 10. On va lire 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens, c'était aux yeux des gens du temps quelqu'un. C'était quelqu'un d'important. Puis un publicain, c'était quelqu'un qui était peu apprécié de la foule. Le pharisien debout priait ainsi en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Ça, c'était l'attitude de ce pharisien-là. Regardez le verset 13. « Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. » Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que l'orgueil de ce pharisien faisait en sorte qu'il se croyait quelqu'un. Il se disait, moi, ma prière va être particulièrement reçue à Dieu parce que je jeûne, je donne la dîme de tous mes revenus, je suis pas comme ces gens-là. Il reconnaissait fort probablement pas son propre péché dans sa vie. Mais le publicain, lui, qui se tenait à l'écart, qui se frappe la poitrine, qui n'ose même pas lever les yeux, est en train de montrer à Dieu qu'il a besoin de lui. Il est en train de montrer à Dieu qu'il est une personne ordinaire, plus qu'ordinaire. Mais c'est laquelle des deux prières que Dieu a justifiée, si je peux dire ça comme ça? Celle du publicain. Celui qui priait en se frappant la poitrine parce qu'il avait une attitude de cœur en disant, ben, je vais m'humilier devant Dieu. La prière, c'est pour nous, qui sommes de la même nature qu'Élie, pour les gens ordinaires. Pas besoin d'être quelqu'un. Vous vous souvenez de l'enseignement que Jésus disait, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Pas besoin d'être vu devant tout le monde, parce que ton Père, il entend ce que tu dis, même quand tu es tout seul et la porte est fermée. Dieu va porter intérêt à cette attitude de cœur-là. Pas besoin d'être éloquent. Est-ce que pour me mettre à prier, si je veux développer une habitude de prière dans ma vie, puis c'est pour les gens ordinaires que Dieu me dit de prier comme Élie qui était de la même nature que nous, est-ce que j'ai besoin d'avoir des conjugaisons puis un vocabulaire tout à fait incroyable pour avoir une prière intéressante à offrir à Dieu? Pas ça que Dieu m'enseigne. J'ai pas besoin d'être éloquent. Ça veut pas dire que l'éloquence est proscrite. Mais c'est pas un prérequis pour prier. Dieu veut qu'on le prie. Dieu veut qu'on l'exauce. Excusez. Dieu veut nous exaucer. Ça fait un peu bizarre, hein? Pas besoin d'être éloquent. Pas besoin d'être quelqu'un. Pas besoin d'atteindre un certain niveau spirituel. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas nécessairement qu'on laisse nos vies aller, puis qu'on néglige le péché dans nos vies. Mais c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre de dire, je vais tout placer ma vie pour que je devienne quelqu'un respectablement spirituel, et là, je vais me mettre à prier convenablement. Dieu veut que je prie. Dieu veut avoir cette intimité-là avec moi. La prière pour les gens ordinaires, avec un Dieu extraordinaire. Et ça, c'est quel privilège quand on prend le temps de s'arrêter pour réaliser ça. Que Dieu, le Créateur de l'univers, mon Créateur, mon Papa, a ce désir d'intimité-là avec moi, qui suis une personne ordinaire. Jacques, il disait, revenez dans Jacques, s'il vous plaît. Jacques, il disait, regardez le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ce texte-là nous donne un prérequis pour que quand même qu'on ait des gens ordinaires puis que Dieu nous donne accès à la prière, Dieu veut qu'on pratique la justice. Jacques, il dit, et c'est une phrase qui est souvent citée, il dit, « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » 1 Timothée 2,8 dit, « Je veux que tous les hommes prient en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Ça veut dire quoi, ça? De prier en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Mais c'est cet exemple-là qu'on montre à Dieu dans un sens que nos mains, ce qu'on fait avec, c'est pratiquer la justice. Qu'on se les lave dans un sens, c'est-à-dire qu'on vit que oui, si on pêche, mais qu'on vient devant Dieu pour confesser nos péchés, pour être constamment en relation avec lui. Si ma prière est pas efficace avec Dieu, peut-être que j'ai ce péché dans ma vie que je dois confesser. Le verset 16, il dit au début, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Je pense qu'on pourrait peut-être voir deux aspects. L'aspect de certainement de demander pardon puis d'accorder le pardon les uns envers les autres. Je peux pécher envers mon frère, envers mon prochain, Et ma relation avec mon prochain affecte directement ma relation avec Dieu. Si je néglige ma relation avec mon prochain, ben Dieu me dit, il y a un problème. Parce que je te demande de m'aimer, mais tu n'aimes pas ton prochain. Faudrait-tu régler tes conflits avec ton prochain? Alors, il y a certainement l'aspect de confesser nos erreurs ou nos péchés les uns aux autres. Psaume 32, je vais juste vous le citer. Psaume 32, le verset 3 à 6. « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. » Au moment où David avait péché, il est allé devant Dieu. En fait, il s'est passé une période de temps au moment où ce que David avait péché, puis où il avait confessé, ce qu'on voit dans le psaume. Parce qu'il dit que tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas rétabli la communion avec Dieu, sa main pesait lourde sur lui. Sa conscience était en difficulté. Il perdait ma vigueur, avait fait place à la sécheresse de l'été. Tant qu'il cachait son péché, il avait une difficulté avec Dieu. Mais il dit, « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu m'as pardonné mon péché. » Et il termine en disant, « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier. » Proverbe 18:1 dit, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Le péché, quand on pêche, naturellement, ce qu'on a envie de faire, c'est de s'isoler. C'est de se reculer. Et pas nécessairement d'emblée confesser notre péché, même à Dieu, puis peut-être même des fois encore moins à notre prochain. Mais quand on veut confesser notre péché, on a besoin de cette relation-là avec Dieu puis avec mon prochain. Il y a un aspect, comme je disais, peut-être deux aspects sur ce verset-là, de confesser les péchés les uns aux autres puis de prier les uns pour les autres. Oui, je peux avoir peut-être blessé quelqu'un puis je dois lui demander pardon et vice-versa, accorder le pardon. Mais je crois qu'il y a l'aspect de redevabilité aussi. D'avoir besoin d'aide dans une saine communion des frères, d'avoir de l'aide pour avoir la victoire sur mes péchés. J'apprécie particulièrement ce qu'on peut offrir avec le Centre Emmanuel, des groupes de victoire, par exemple, qui peuvent avoir de l'aide pour différentes problématiques, différentes difficultés, où on a l'occasion d'être entouré puis d'avoir de la prière. Puis après ça, de pouvoir dire, j'ai de la difficulté avec tel aspect dans ma vie. J'ai besoin d'aide. Quand on reste tout seul avec nous-mêmes, c'est difficile de lutter tout seul. Mais quand on a cette aide, et là, c'est pas, on fera pas une séance dimanche prochain de confession publique de vos péchés. En tout cas, je commencerai pas le premier si c'est le cas. C'est pas l'idée de faire une confession publique, de confesser les uns aux autres, mais d'avoir de l'aide de nos proches qui peuvent prier avec nous. Cette idée de redevabilité. Parce que quand je sais que mon frère lutte avec une chose ou que je lutte avec quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que le verset dit? Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Oui, je sais que mon frère ou ma sœur a une lutte. Mon frère ou ma sœur sait que j'ai une lutte dans ma vie et il va prier pour moi. La prière, c'est pour les gens ordinaires, mais qui apporte un aspect de guérison dans nos vies. Jacques, il termine son développement au verset 16 en disant cette phrase, comme je disais, qui est bien citée souvent, « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » C'est à qui Jacques s'adresse? De qui est-ce qu'il parle? Qui il a en vue? Qui sont ceux parmi nous qui sommes justes pour que notre prière soit efficace? Évidemment, il y a un élément où ce que les Écritures disent, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Devant Dieu, on est pécheur et on a besoin de lui, de se présenter devant lui pour qu'il nous justifie. On a besoin, il s'agit sans aucun doute de celui qui a reconnu son incapacité à parvenir à la justice par lui-même, qui a confessé son péché, puis accepter Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur, et qui est donc justifié par la grâce de Dieu. On a besoin d'être premièrement justifié par Dieu. J'ai besoin d'avoir cette relation-là personnelle avec mon Dieu où je lui ai confessé mes péchés, où il m'a sauvé. Et là, pas parce que je suis une personne qui est bonne ou une personne qui fait les bonnes œuvres que je deviens juste, mais parce que Dieu m'a justifié, je peux me mettre maintenant à pratiquer la justice aussi. Et c'est ça qui donne l'efficacité à ma prière. La première bonne raison pour laquelle Dieu nous enseigne à prier, c'est parce que la prière est pour les gens ordinaires. On n'a pas besoin d'attendre d'être quelqu'un. Élie peut être pris comme quelqu'un d'important, mais quand Élie a commencé son ministère, il était une personne ordinaire, même au courant de son ministère. Mais il est en relation avec un Dieu extraordinaire. La deuxième bonne raison pour laquelle on devrait prier, c'est parce que la prière est puissante. Croyez-vous ça? Croyez-vous que la prière est puissante? Croyez-vous que Dieu veut vous exaucer? Que quand vous le priez, qu'il vous écoute et qu'il est intéressé. Si la prière est puissante, pourquoi est-ce qu'elle est puissante? C'est parce qu'elle est exaucée par un Dieu tout-puissant. On ne devrait pas se priver de la prière envers un Dieu qui est tout-puissant. La prière, elle est puissante. Jacques va renchérir en disant, comme je disais tantôt, « afin que vous soyez guéris ». Le terme « guérison », on en a parlé la dernière fois. Certainement qu'il y a cet aspect physique que Dieu veut nous accorder la guérison. Mais il faut aller plus loin dans notre réflexion que Dieu va nous accorder la guérison absolue au moment de la résurrection. Au moment de notre résurrection. Momentanément, comme David disait tantôt, on va tous mourir, on va tous être malades à un moment donné. Et on va tous y passer par la mort, à moins que le Seigneur revienne avant. Mais la guérison n'est pas toujours accordée sur le plan physique. Ce que Dieu veut premièrement, c'est certainement cet aspect de guérison spirituelle de mon âme. C'est ce que Jésus voulait apporter aussi. Je vais vous faire une citation, tournez avec moi dans 1 Pierre 2. C'est juste un livre plus loin, vous ne serez pas très loin. 1 Pierre 2, verset 24. Une bonne raison pour prier, c'est que la prière est puissante. Puis en priant les uns pour les autres, ce que Jacques nous dit, c'est que la prière peut nous apporter la guérison. Oui, peut-être sur un plan physique, mais sur un plan spirituel que Dieu veut accorder premièrement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et de quoi est-ce qu'on a été guéri dans un sens absolu? Mais de nos péchés, de notre vie qui était séparée de lui. Dieu nous a mis en communion, Jésus nous a mis en communion avec son Père et avec lui. Alors, la guérison est une prière, est un exaucement que Dieu peut accorder, qui est tout à fait puissant dans nos vies. La prière est puissante. Je vous demandais tantôt, est-ce que vous croyez ça? Il faut garder la foi quand on prie. Il faut garder la confiance que Dieu entend, que Dieu écoute, que Dieu est intéressé. Si je perds cette foi-là, cette confiance-là, j'ai un problème dans ma prière. Est-ce que je garde la foi quand je prie? Que Dieu est intéressé à moi, que Dieu est intéressé à ma vie. Jacques va compléter son exemple. Regardez le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, on en a déjà parlé, mais regardez qu'est-ce qu'il a fait avec la prière. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il a prié une autre fois, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit de son fruit. Avez-vous déjà eu une prière aussi efficace? Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir une prière aussi efficace que ça? Élie était de la même nature que nous. Élie, là, il est de la même nature, il aurait pu être assis là ce matin. Puis quand il s'est mis à prier, il a arrêté de pleuvoir. C'est une fois un homme qui faisait un barbecue. Il avait invité tous les gens de son réseau assez proche. Et puis, il réalise, il a oublié une des dames de son réseau proche à inviter. Alors là, il l'appelle à la dernière minute, le samedi même. Il dit, hey, je m'excuse, je t'ai oublié. Tu as dû entendre que je faisais un barbecue chez nous. Puis, je t'ai même pas invité. Viens, t'es bienvenue à venir. Puis là, la madame, elle répond, ah, c'est pas nécessaire, j'ai déjà prié pour la pluie. T'es peut-être pas la seule qui avait prié pour la pluie. Élie avait déjà prié pour la pluie. Tournez avec moi dans 1 Pierre, excusez, dans 1 Roi 17. C'était peut-être pas des bons motifs pour prier pour la pluie dans le cas de la dame. Élie, il y avait peut-être d'autres motifs, par exemple. Il faut comprendre qu'il y a un contexte bien particulier où Dieu a communiqué sa volonté à Élie. Élie a été en relation avec Dieu et Élie a pu faire cette prière-là qui, évidemment, était en relation avec la volonté de Dieu. Mais quand même, c'est sur la parole, on l'a lu tantôt, au verset 1, il y aura la dernière phrase du verset 1 du chapitre 17, « Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » C'est quelque chose quand même. Cet homme-là qui pouvait, sur sa parole, faire cesser la pluie. On va aller même un petit peu plus loin. Élie a dû se déplacer en quelques occasions. Puis à un moment donné, Élie est rendu à Sarepta. Regardez le verset 20. Il est devant un enfant qui est couché sur son lit, qui était malade et qui là maintenant sans vie. Élie invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçue comme un autre? Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » C'est une prière un peu particulière, hein? Est-ce que Élie avait la foi que Dieu l'écoutait? C'est sûr, absolument. Il avait une foi tellement grande qu'il a osé demander des choses que j'aurais jamais pensé demander. Puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. L'Éternel a écouté la prière d'Élie, puis il l'a répondu. Regardez dans le chapitre 18, on va lire le verset 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent à la parole de l'Éternel, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Ça faisait déjà un certain temps qu'il avait arrêté de pleuvoir, et là, Dieu est en train de lui dire, « Je vais agir différemment. » Quand Élie pria avec instance, le texte de Jacques nous dit, littéralement, on aurait pu dire, il a prié avec des prières. Il a prié des choses incroyables et des choses incroyables se sont produites. Il a fait venir la sécheresse. Il a fait ressusciter un mort. Il a fait tomber le feu du ciel. Il a fait revenir la pluie. Il a confronté le roi en face ainsi que ses 400 prophètes idolâtres. La prière d'Élie ont à la fois créé et mis fin à une sécheresse, que Jacques nous disait. Est-ce que je garde la foi quand je prie? Est-ce que j'ai confiance que Dieu m'entend? Élie se tenait continuellement dans la présence de Dieu, puis c'est pourquoi il n'a pas éprouvé aucune crainte quand Dieu lui a ordonné d'aller devant Achab. Achab était un mauvais roi. Et puis Élie aurait pu dire, « Ben jamais de la vie, je ne veux pas aller là. » Mais il est allé parce qu'il avait confiance en Dieu. S'il a demandé des choses incroyables à Dieu, c'est parce qu'il avait confiance en Dieu aussi. Est-ce que je garde la foi? Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai déjà racontée il y a probablement plus d'une année. La foi est la ferme assurance que Dieu nous écoute. Lorsqu'Edmund Gravely mourut au contrôle de son petit avion, sa femme Janice prit les commandes et réussit à garder l'appareil dans les airs pendant environ 2 heures. Alors qu'elle survolait la frontière entre la Caroline du Sud et la Caroline du Nord, elle lança un appel de détresse par radio. « Au secours! À l'aide! Mon pilote est inconscient et je ne sais pas piloter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Répondez! » Les autorités policières avaient reçu son message de détresse, mais furent incapables d'établir le contact avec elle parce qu'elle changeait constamment de fréquence et multipliait ses appels au secours. Faute d'aide, son avion s'écrasa peu de temps après. N'agissons-nous pas souvent comme cette femme à cause de notre manque de foi en Dieu? On se présente devant Dieu, on lui donne nos prières, mais rapidement, on change de fréquence. Puis on se tourne vers d'autres moyens. Peut-être des moyens humains, peut-être des ressources que l'on a sur la terre, puis on abandonne rapidement la prière, la puissance de la prière, pour utiliser de faibles moyens humains. Revenez avec moi dans Jacques, s'il vous plaît. Jacques 1. Jacques 1, regardez les versets 6 à 8, on les a déjà vus dans le passé. Mais c'est le même thème que Jacques, il va revenir. Celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. On a parlé de la sagesse, mais ça peut être nos requêtes, nos prières. Mais qui la demande avec foi, avec confiance. Quand je viens devant Dieu, je me place sur une fréquence, puis je prie Dieu. Puis je l'invoque. Ça ne veut pas dire que j'agis pas, vous êtes d'accord? Jacques a toujours parlé que la foi et les œuvres, les deux sont indissociables. Mais quand je prie, je dois avoir cette foi-là, que Dieu m'écoute. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le manque de foi dans nos prières nous fait souvent manquer d'efficacité dans notre prière. Est-ce que je garde la foi? Je vais vous poser une autre question. Dans Jacques, vous êtes déjà dans Jacques, allez au chapitre 5 où on était. Élie priait avec foi. Il priait aussi, regardez verset 17, « Il est un homme de la même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. » De quelle façon est-ce que l'on prie? À un moment donné, je vais terminer bientôt sur une courte citation, mais il y a plusieurs années, j'avais un travail, j'en avais déjà parlé quelquefois, j'ai taillé des sapins au temps où j'étais adolescent. Je taillais des sapins de Noël. Et puis ça, c'est pendant l'été. Alors, il faut imaginer un été comme on a, un peu comme on a maintenant, des 30 degrés à répétition. Il faisait très chaud. Et le premier jour où je suis allé travailler pour tailler des sapins, il devait faire à peu près 48. Là. Je ne sais pas c'était combien, là, mais c'était incroyable. J'exagère en disant 48. Là. Mais moi, j'ai pas pensé. Puis je me suis dit, en allant là-bas tailler des sapins, à un moment donné, quand j'ai soif, ben je vais aller à l'abreuvoir pour aller boire. Mais il n'y a pas d'abreuvoir là-bas. Là. C'est un désert de sapins. C'est rien que des sapins. Et la seule chose que je m'étais apporté pour boire, c'est une canne de jus de tomate. Tu sais, une petite canne grosse de même. Là. Et là, on passe l'avant-midi. On commence vers 6 heures le matin. Et là, on prend une pause vers 10 heures, 10 heures et demie. Mais déjà là, je suis assoiffé. J'ai soif, là. Je rêve à boire de l'eau. Tu sais, même le petit goût de cope là, qui goûte là, dans l'eau, le goût de chlore, là, même ça, j'ai envie de le goûter. Mais tout ce que j'ai, c'est une canne de jus de tomate. Puis en une gorgée, j'ai bu tout ce que j'avais pour la journée. Là, j'ai passé la journée la plus pénible de ma vie pour la soif. J'ai jamais eu soif de même. Puis quand que je suis arrivé au point de rencontre, j'ai appelé ma mère, je n'étais plus capable de revenir à bicyclette. J'ai dit, viens me chercher, puis s'il te plaît, apporte de l'eau. J'ai demandé comme j'ai jamais demandé de l'eau. J'en voulais, puis j'étais assoiffé, puis j'en désirais. À un moment donné, David, il dit dans le psaume 63, « Mon âme a soif de toi. » Quand que David il parle à Dieu, je suis convaincu que cette même soif-là que je pouvais éprouver dans mon corps, mais lui dans son âme, et qu'il va prier Dieu puis dire, « J'ai soif de toi, Dieu. J'ai besoin de toi. » Puis quand il va demander quelque chose à Dieu, il va le demander avec ferveur. Quand on n'a pas soif puis qu'on demande un verre d'eau, il n'y a pas beaucoup de ferveur, hein, parce qu'on l'apprécie pas nécessairement, on le désire pas nécessairement, on croit pas nécessairement qu'on en a de besoin. Mais quand on réalise notre besoin de Dieu, la puissance qu'il y a en Dieu, quand je réalise mes incapacités humaines, puis ce que Dieu peut faire en moi, puis ce que Dieu peut m'apporter, puis que Dieu est la source d'eau vive continuellement qui peut étancher cette soif-là. Mais quand je prie Dieu, je vais le prier avec ferveur, comme un homme ou une femme assoiffée, qui va prier avec ferveur. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va prier, on va se frapper la poitrine, on va tomber à genoux? C'est pas nécessairement ça que je veux dire. Mais comment est-ce qu'il est notre cœur quand on vient devant lui, quand on vient à Dieu? Je posais la question tantôt, comment est-ce qu'elle est ta foi quand tu pries? Une deuxième question, mais comment est-ce qu'elle est ta ferveur ou ton instance ou ta persévérance dans la prière? Supposons que l'un de vous ait un ami. Et puis quand il a trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, « Hé, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et j'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, c'est barré, mes enfants et moi, on est au lit, je ne veux pas me lever pour te donner du pain. » Mais je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il va se lever à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. C'est qui nous a enseigné ça? C'est Jésus. Jésus nous a enseigné à le prier. Regardez ce qu'il dit. Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Faut pas se priver d'aller demander à Dieu. Dieu veut qu'on vienne à lui. Il nous a donné cet exemple-là d'un ami qui n'avait pas envie de se lever la nuit. Dieu aura toujours envie de se lever pour venir écouter, pour venir écouter nos demandes. C'est ce que Jésus nous enseigne. Mais Jésus nous enseigne que même cet ami-là, il va le faire à cause de la ferveur ou de la persistance des requêtes. Qui va se lever puis dire, « OK, prends-les les pains, puis retourne chez toi parce que j'ai envie de me coucher maintenant. » Il est évident que des biens si grands qu'on peut demander à Dieu doivent être grandement désirés, ce qui devrait alimenter notre ferveur. Que les demander avec indifférence ou même avec peu d'ardeur, c'est en méconnaître l'excellence. Qu'est-ce que tu demandes présentement à Dieu? C'est quoi tes requêtes que tu veux lui présenter? Reste pas silencieux. Dieu veut t'exaucer. Qu'est-ce que tu veux lui partager? Est-ce que tu veux lui demander de la sagesse pour une situation dans ta vie où tu en as particulièrement besoin? Est-ce que tu as besoin de connaître sa volonté? Demande-lui. Est-ce que tu as besoin de son aide? Demande-la à Dieu. De son intervention? Est-ce que tu as besoin d'avoir son pardon? Demande-lui, confesse ton péché, sa miséricorde ou sa grâce. Est-ce que tu veux partager à Dieu tes peines, tes tristesses, tes joies, tes angoisses, tes inquiétudes, tes colères, tes frustrations? Partager tes silences de cœur. Fais-le. Dieu, il veut t'écouter. Dieu est intéressé. La prière est pour les gens ordinaires, de la même nature qu'Élie. La prière est pour nous. La prière du juste a une grande efficacité. La prière, elle est puissante. Garde la foi. Garde la ferveur dans la prière. Dieu veut t'exaucer. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer, encore une fois, parce que tu es un Dieu tellement sensible à notre égard, qui nous aime tellement. Tu dis, Dieu, que tu es intéressé à nous écouter, que tu es intéressé à nous exaucer. Puis on veut te louer pour ça, parce qu'il n'y a rien qui t'y obligeait. Mais tu désires cette intimité-là avec nous. Pas qu'on te traite seulement comme quelqu'un qui peut exaucer des requêtes, mais tu désires cette relation-là avec nous. Et certainement, tu désires, à travers cette relation-là, nous exaucer. Comme un papa qui va prendre soin de ses enfants quand ils vont lui faire des requêtes. Merci d'être ce papa si aimant envers nous. Merci que même si des fois on ne s'exprime pas toujours bien, si on n'est pas toujours éloquent, même si on ne sait pas toujours comment s'y prendre, tu sais nous écouter. Tu comprends nos requêtes. Tu comprends nos demandes. Seigneur, on veut te louer parce que tu as mis la prière accessible à chacun de nous. On veut te louer parce que quand on te prie, des choses extraordinaires se produisent dans nos vies, par nos vies, autour de nous. Notre désir, Dieu, c'est que tu sois glorifié. Continue de nous enseigner jour après jour à prier, à garder la foi, la confiance en toi, nous faire réaliser ce que tu es et ce que tu peux offrir, Seigneur, pour qu'on puisse garder cette ferveur dans nos prières. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie ces choses. Amen.